There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Serge, l'émission, Patrice Bardot, Didier Varro, Antoine Dabrowski.
L'année prochaine, ce seront les 40e Francofolie à La Rochelle. Mais loin de faire sa crise de la quarantaine, le festival est aujourd'hui dans la force de l'âge. Les grandes soirées sur la scène Jean-Louis Foulquier affichent complet depuis plusieurs mois. Et les Francos se déclinent désormais à Montréal, à Spa, à La Réunion, en Bulgarie, en Nouvelle-Calédonie et depuis l'année dernière au Luxembourg. Si le site du Vieux-Port de La Rochelle et cette grande scène veillée par la Tour de la Lanterne y est pour beaucoup dans la magie du festival, c'est aussi une vision singulière de la musique et de la fête à la française qu'on vient y chercher. Du plus fédérateur, Sheila, M, DJ Snake ou Louise Attack, au plus émergent, Claude, Annie Ada ou Poppy Fusée, à La Rochelle, la chanson se chante, se rappe, se danse et aussi se pense avec les folles rencontres, des conversations avec des artistes, des auteurs, des actrices, des humoristes ou des chefs. Du plus fédérateur au plus émergent, c'est bien ce qui fait vibrer Serge quand tous les mois, ou presque, notre conversation WhatsApp avec Didier Varro et Patrice Bardot frémit des découvertes que nous allons vous proposer. Alors c'est avec plaisir qu'on se retrouve ici en direct du Café Pollen au bord de l'océan pour la résidence estivale de Serge L'Émission. Bonjour Patrice Bardot.
Oui, bonjour Antoine Dabrowski. C'est un grand plaisir de se retrouver là au Franco aujourd'hui.
Bonjour Didier Varro qui fait des selfies.
Bonjour.
Qui est arrivé à l'heure? Donc bon,
enfin, voilà. Presque. À une minute près.
Un record.
Et qui est aux couleurs locales, hein. Le petite marinière.
Magnifique, magnifique. J'espère qu'on est.
Et sœur jumelle en hommage à Julie Gaillet qui est en ce moment en train de s'entretenir avec Eric Fotorino. Oh. Et à Etienne Dao un peu quand même.
Un peu Etienne Dao.
Au programme de notre émission charentaise, la quête de l'épure d'un chanteur élégant qui, dans son dernier album Tambour Vision, a insufflé une dose de groove à ses textes métaphoriques, Bertrand Belin. Mais d'abord, un jeune homme venu de Picardie qui aime danser sur ce qui peut faire mal et qui s'est frotté hier aux 17 000 personnes de la scène Jean-Louis Foulquier venant glisser sa poésie entre deux concerts. Bonjour Euth.
Bonjour.
Comment ça va?
Super bien.
Au bord de l'océan comme ça. Alors hier, ici au Franco, il faut le dire, entre les grands concerts sur la grande scène, il y a ce qu'on appelle les intercales, des artistes du chantier viennent proposer comme ça un petit showcase de quelques titres, mais vraiment au milieu de la foule. Et depuis que je suis arrivé, on m'a dit « Ah, eux, il a assuré hier soir hein. ». Comment tu as vécu ce moment-là sur le proscenium de la scène Jean-Louis Foulquier?
C'était vraiment incroyable, j'avais très hâte de le faire. Ça fait 6 mois que je sais que je vais le faire et ça fait 6 mois que j'en rêve, donc j'étais ravi. Et à la fois, c'est très impressionnant de se retrouver face à cette marée humaine là, mais je leur ai donné tout mon amour et c'était formidable.
C'est la première fois que tu joues devant autant de monde?
Ouais. Je crois que le maximum que j'avais fait jusque-là, c'était 2000. Donc on l'a bien explosé.
Patrice?
Et avant de monter sur scène, qu'est-ce qu'on se dit dans sa tête? On a peur, on a envie de
pas y aller, ou alors on se propulse en avant dans un grand bond?
J'essayais de penser à rien et il y a une magnifique photo que j'ai pu voir où j'ai juste le regard mais perdu loin et la concentration maximum de me dire ok, c'est maintenant et tu vas tout défoncer. Voilà. Désolé pour la vulgarité, mais c'est ce que je me suis dit.
Et là, tu sors de scène aussi, autre contexte, dans la scène du théâtre, sur la scène du théâtre Verdière. Jouer à 15h dans une salle noire, sombre, en plein été. Il a fallu aller un petit peu chercher les gens, parce qu'on est assis confortablement dans ces fauteuils. C'est aussi à passer comme ça dans les festivals d'un exercice à l'autre complètement différent. Tu commences à être rompu à cet exercice-là, de passer d'une scène à l'autre, d'une ambiance à l'autre, d'une énergie à l'autre.
Ouais, j'adore l'adaptation. Stabilité qu'on nous demande et dont on a besoin pour faire tout ça, quoi. C'est assez formidable. Et puis, je trouve ça hyper formateur, quoi, de passer du proscenium à 15 000 au théâtre Verdier. Moi, j'adore ça.
Didier, on a déjà passé Euth dans Serge, l'émission. C'est vrai qu'on a tous les trois craqué sur la chanson de Euth, un projet que tu as suivi toi aussi. Hein.
Oui, depuis le début. Et puis, comme je l'ai déjà dit, je crois, à cette antenne, c'était un amour lent et progressif. Mais à partir du moment où l'amour est lent et progressif, il est total. Donc voilà, j'ai vraiment été très impressionné par sa performance aux étoiles quand je l'ai vu, je ne sais plus quand est-ce que
le
c'était.
Le 6 avril.
Le 6 avril. Et cette attirance que j'avais pour le projet et pour quelques chansons de l'album s'est complètement transcendée parce que j'ai vu quelqu'un d'assez rare sur scène qui a une façon d'occuper la scène qui est à la fois très naturelle et qui s'inscrit un peu dans la mythologie du rock, du glam, de toutes ces figures emblématiques qui ont nourri cette mythologie-là. Mm-hmm. Et franchement, j'ai été épaté et j'aime bien croiser le regard de ce garçon par ailleurs.
C'est vrai que moi, c'est une question que je voudrais lui poser, c'est d'où viennent justement toutes ces influences, comment tu... D'où elles viennent, tu as été nourri à ça, tu as été élevé dans un milieu musical ou...
Absolument pas, j'étais nourri à la musique de radio que j'écoutais en voiture parce que j'ai grandi dans un village de 250 habitants et que le seul moment où on écoutait la musique c'était en voiture pour se déplacer quoi. Et à un moment, il y avait quand même les balles où on passait Niagara et toutes ces chansons et quand j'entendais ça je me disais ok ça c'est cool ça. Et puis quand j'ai eu un téléphone dans les mains j'ai approfondi ça, j'ai découvert Daniel Darc, Barbara et tous ces artistes et j'ai dit ok ça c'est le rock.
Mais tu les remercies là encore cet après-midi, tu les remercies sur scène, Bachung, Daniel Darc, Barbara, Anne Sylvestre. Voilà, on le sait, tu as grandi en Picardie, tu viens d'un milieu modeste etc, on n'écoutait pas spécialement de musique ou la culture n'avait pas spécialement une grande place, c'était des refuges le moment où tu comme tu le dis tu te baladais avec ton téléphone et que tu écoutais ces grandes voix de la chanson française pour toi ?
Ouais, j'avais l'impression que c'était comme des frères et sœurs et des mentors et des gens qui me glissaient des mots doux à l'oreille et qui me réconfortaient comme ça dans ma solitude picarde, ça me faisait du bien quoi. Franchement.
Ton album est sorti en février, hein, c'est ça ?
Ouais.
Et est-ce que tu as été heureux de la manière dont il a été accueilli ? Comment ça se passe pour toi ?
Ça a été un grand chamboule-tout dans ma vie cet album, mais à la fois je suis très heureux qu'il soit sorti parce qu'on fait des chansons pendant très longtemps et puis on les garde pour soi, et puis à un moment il faut les donner aux autres pour passer à autre chose même et pour en écrire d'autres. Et j'avais besoin de ça pour écrire là ce que je suis en train de faire. Je suis très heureux. Ouais.
Pour envisager la suite.
Exactement.
Et tu peux nous en dire un peu, quelques mots sur cette suite ?
Il y a déjà beaucoup de nouvelles chansons dans le set hein,
ouais.
Que j'ai vues cet après-midi.
Concert, voilà ce que je peux vous dire. Vous les découvrirez.
Patrice, bam. D'ailleurs, tu fais une reprise d'Idées Noires de Bernard Lavilliers.
Ah, très bien.
Un grand moment de... Il faut savoir que Patrice Bardot est un fan number one de Bernard Lavilliers. Que personnellement je suis un fan number one de cette chanson qu'il fait en duo avec Nicoletta, qu'il a reprise sur un album acoustique avec Catherine Ringer. Qu'est-ce qui un jeune homme, très jeune homme qui n'a pas 25 ans te parle dans cette chanson Idées Noires?
Moi j'adore dans cette chanson déjà comment claquent les mots quand il dit bad trip, Idées Noires, enfin, toutes ces accumulations, j'étais en mode waouh waouh waouh, et ça m'a saisi en premier. Et puis après il y avait cette dualité de voix qu'il y a entre Nicoletta et Bernard Lavilliers, où Nicoletta est comme en train de déclamer tout son amour et Bernard est comme une personne taureau qui est très droit, très comme ça, et il saute un peu. Et je trouve ça très beau. Et
toi,
à la fois,
tu fais les deux à la fois, quoi. Tu fais à la fois Nicoletta,
oui.
Et Lavilliers.
Voilà, j'ai fait entre eux et Thibaut, c'est un petit duo à nous deux.
Armée paillette, finalement.
Exactement, on est dans cette idée-là.
Oui. Didier. On pourrait, quand on t'entend ou quand on t'écoute parler, te dire que tu as une voix, un registre de voix assez proche de celui de Nicoletta, plutôt une voix de blues, voire de gospel. Et d'ailleurs, c'est très étonnant la manière dont ta voix se déploie sur scène. L'homme qui chante n'est pas l'homme qui parle, en fait.
C'est vrai, mais je pense qu'il y a une transcendance autant énergétique que vocale, mais moi, j'y comprends rien parce que j'ai jamais pris un seul cours de chant et je sais pas comment elle fonctionne, mais c'est une belle machine.
Est-ce que c'est important, c'est envisageable, les cours de chant dans une vie de chanteur ?
Je crois, en tout cas moi je crois que j'aime la vérité absolue et je me dis à partir du moment où on va venir lisser et cadrer ça, peut-être que ça pourra apporter quelque chose d'élégant à un moment, mais quelle part de vérité on va venir retirer ? Je pense qu'il y a un consensus à faire entre ces deux choses-là.
Parce que pour rester dans le registre, moi cet après-midi j'ai aussi pensé à Klaus Nomi et notamment dans la théâtralité, c'est quelque chose que tu vas chercher, tu as besoin de faire des grands gestes, de faire des grands déplacements, de pousser la voix dans les hauteurs pour la faire redescendre après, tu as besoin de ces excès-là, cette gamme-là.
Je suis un homme d'excès, ouais, je crois que j'en ai besoin.
Mais pourquoi ? Qu'est-ce que ça te procure ? Où est-ce que ça t'amène artistiquement ?
Je sais même pas en fait, rien n'est réfléchi, donc tout est instinctif, donc je sais même pas pourquoi il y a des grandes élancées comme ça. J'essaie juste de saisir ce qui vient et de le laisser paraître. parce que peut-être que la beauté, elle est juste dans laisser paraître les choses comme elles viennent, quoi.
Didier,
est-ce qu'il y a une sorte de fraternité avec d'autres artistes? Est-ce que tu te sens proche d'une famille artistique? Aux Étoiles, j'avais aussi vu ce moment à la fin du concert où tu avais appelé deux de tes camarades, non pas de bureau, mais c'est l'expression de Brassens. Enfin, il appelait ses copains chanteurs des camarades de bureau. Que tu avais fait venir sur scène, je crois que c'était Chéri et Abel, si, dans mon souvenir. Est-ce qu'on a besoin aussi de cette fraternité ou cette sororité pour affronter les tumultes et les inquiétudes que sollicite ce métier ?
Je pense, oui. Je pense que quand on voit le côté l'arrière-scène entre guillemets de ce métier, on a besoin de s'épauler entre artistes, on a besoin d'être là les uns pour les autres, surtout quand on est queer comme Chéri et moi et plein d'autres, et c'est une amitié déjà qui est là réellement de base, au-delà du fait qu'on soit tous les deux chanteurs, mais ça me fait beaucoup de bien de la voir. En tout cas,
elle existe, cette scène queer française,
elle existe et elle est en train d'émerger comme jamais, et j'y crois très très fort, et je sais qu'on en a besoin de toute façon, donc elle est là, faut s'en saisir.
Patrice ?
Non, il n'y a vraiment pas de rivalité entre vous, parce que c'est vrai que ça c'est assez générationnel. C'est vrai qu'avant, c'est vrai que chanteurs, chanteuses, il y avait toujours quand même un peu des rivalités, il faut le dire, entre vous. Vous soutenez mutuellement.
Oui, mais je pense qu'il y a déjà tellement de gens qui se font la guerre, il y a déjà tellement de gens qui aimeraient qu'on se fasse tous la guerre, mais aimons-nous juste simplement, quoi. C'est beaucoup plus sain et ça nous fait beaucoup plus de bien.
Tu dis qu'une chanson, elle se vit. On le voit évidemment quand on te voit sur scène, mais pour toi, la chanson, c'est pas aussi le lieu de la pensée, de la réflexion. C'est toujours quelque chose d'instinctif, y compris au moment où tu l'écris.
Nietzsche disait ne pas rire, ne pas pleurer, mais comprendre. Alors, c'est le premier truc que j'ai étudié en philo, et c'est le seul truc que j'ai retenu. Voilà.
C'est bien.
C'est vrai que l'animalité, elle est constitutive de ce que tu es, toi. L'instinct, l'animalité, ça vient du rock, de cette mythologie-là, plutôt.
Je sais pas si ça vient du rock ou de mon parcours, mais c'est, en fait, comme tout a été une sorte de non-choix et d'évidence, et y a aucun moment où j'ai pu me poser et me dire « Ah, peut-être je vais réfléchir et faire un choix ». Non, il a fallu prendre une route et suivre une lumière et y aller jusqu'au bout et donner 100% de ce qu'on était. Alors, c'est ce que j'ai toujours fait et c'est ce que je continue de faire, même si j'essaye... Et notamment là sur le live d'été, de me poser, de créer un peu des variations pour que tout ne soit pas à la même intensité et pour qu'aller découvrir un peu les couleurs derrière le noir. Voilà.
Patrice.
Et c'est quoi pour toi là, un peu les gros obstacles qui pourraient t'empêcher d'arriver
Je crois que le seul obstacle qu'on a dans la vie, c'est soi-même. Si on se dit que tout est possible, alors tout est possible.
Quelle réponse.
Ouais.
Quelle réponse. Ah ouais, tu es parti en mode bulldozer, c'est parti, je fonce, et t'as cette espèce d'énergie-là.
Mais depuis le début, depuis que je me suis dit je veux faire ce métier.
Quand est-ce que tu t'es dit ça justement? Tu t'es dit je veux faire ce métier, ça a été jeune ou...
Ouais, hyper jeune. Quand on me demandait dès l'école, je crois, qu'est-ce que je voulais faire, je répondais chanteur. On me disait trouve-toi un vrai métier, je disais oui, chanteur. Mais ouais, non, ça... Enfin, j'ai oublié votre question, pardon. Mais...
Non, tu y as répondu. C'était les obstacles qui pouvaient surgir devant toi. Tu as dit, tu fonceras.
Oui,
qu'importe les obstacles.
Oui.
Tu as cette foi en toi.
Oui, et puis j'ai des idéologues incroyables qui m'accompagnent, alors ça va.
C'est important. Idéologue.
Ouais, c'est pas beau le mot manager. Idéologue, c'est classe.
Ton manager, c'est un idéologue. Pour revenir à la question queer, à la question PD, etc. Je sais que la découverte d'Hervé Guibert, et notamment de Mon amant qui ne m'a pas sauvé la vie, a été quelque chose d'important pour toi. Est-ce que justement la plume, le style d'Hervé Guibert, c'est quelque chose qui te guide quand tu écris tes chansons ?
Oui, assez. J'ai adoré son côté direct et très droit, comme ce qu'on raconte depuis tout à l'heure, quoi. Et dernièrement, j'ai lu Constance Debré, j'ai retrouvé un peu cette patte aussi. J'aime beaucoup ça, et au-delà du côté queer PD, quoi. Mais ouais.
Tu dis aussi que la chanson, elle doit donner envie de danser. Nous, à Tsugi, c'est vrai qu'on aime bien danser, on aime bien la musique électronique. Est-ce que tu es un clubbeur, Eut?
Eh bien, même pas, figurez-vous. Non, je déteste aller en boîte. j'y vais de temps en temps, quoi, mais j'aime bien être posé dans un appart et faire un bon vieux jeu de société en buvant un verre de vin rouge. Je trouve ça particulièrement bon.
Parce qu'il y a quand même des chansons qui font danser.
Ouais, mais je danse en concert. En fait, je fais énormément de concerts, du coup, je sors un peu moins.
Parce que là, on l'entend sur le live, il y a quand même au niveau des productions, vous allez chercher là-dedans, vous allez chercher dans ce qui vient du club, qui vient de, voilà, de la techno, de la house, etc. Du coup, c'est des musiques que tu digues aussi, autant que tu vas creuser les anciens chansons, les anciens de la chanson.
Oui, et puis... pouvez répéter votre question, Antoine.
Je disais que sur scène, on entend les influences club. On entend, je vais te monter un petit peu ton retour. Est-ce que c'est mieux? Si on entend les influences club, on entend ce goût pour la techno, pour la boucle qui dérape un peu, ce qu'on aime tous ici.
Pour le disco.
C'est des choses que tu vas diguer aussi, même en buvant ton verre de rouge à la fin de ton jeu de société.
Peux-tu me décrire le mot diguer? J'ai un anglophonisme.
Diguer, aller chercher de la musique. C'est vraiment okay, digué comme dans le disquaire, on bouge les disques pour regarder les disques qu'on va prendre.
Merci. Bah, en fait, j'ai un abonnement Spotify, comme beaucoup de monde, je pense, ou toutes les plateformes, bref. Et j'adore, là je suis sur la route, et j'adore quand je fais des voyages, mettre une musique et laisser faire le truc. Et du coup, je fais des découvertes incroyables comme ça. Et après, je retiens des sons qui m'intéressent et je dis, ah, ce son de synthé-là, c'est particulièrement bien. Cette drum-là, elle est cool. Et je fais ma musique comme ça, quoi.
Didier ?
Mais ce qui est très étonnant, c'est qu'on n'a pas un clubbeur avec nous, mais quand on te voit sur scène, il y a cette science, peut-être inconsciente, à la fois, comme je disais tout à l'heure, du rock, mais aussi de cette culture issue des années 80, du cabaret rock, un peu transgressif, un peu chelou. On pense à Marc Almond, on pense à des artistes comme ça qui ont été cherchés à la fois dans l'histoire du music hall, dans ce qu'elle a de plus transgressive et licencieuse, et en même temps cette histoire de la contre-culture du rock. Et quand on te regarde, on voit ce rapport que tu as aussi au corps, et on se dit, bon ben voilà, il doit clubber tous les vendredis, etc. Eh bien non, c'est quoi ton rapport au corps ?
Mon rapport au corps, j'ai fait un album dessus, le premier. Je crois qu'il parlait essentiellement de ça. Non, mais... aujourd'hui très bien. Je crois que c'est juste la représentation physique de ce qu'on va être nous. Et c'est vrai que quand moi j'arrivais à l'âge adulte avant, là maintenant c'est passé, mais quand on arrive à ce moment-là, on se dit putain, mais à quoi je vais bien pouvoir servir dans ce monde, et à quoi ma personne et mon corps va servir, quoi, tout simplement. Donc aujourd'hui, je crois que je suis très apaisé après avoir fait un album dessus et avoir fait des chansons comme Corps et Ego. Et pour revenir sur le côté clubbeur, j'ai eu un petit passé de vie clubbeur.
Ah, quand même.
Ouais.
Tu es repenti. Mais tu te souviens la première fois que tu allais dans un club ?
Ouais, je devais avoir 16 ans, c'était à Lyon. Voilà.
On n'en saura pas plus.
Ouais, je suis rentré de manière un peu frauduleuse dans un club. Puis, non, mais j'aime la lumière, et du coup, ce qui est sain et ce qui est bon et ce qui est beau. Et le club, ça va quand même dans un environnement avec plein de choses qui sont un peu dark. Et alors, j'essaye de passer à côté.
Souvent, la nuit, c'est aussi la liberté. Il y a l'impression que toi, la liberté, c'est important.
Ouais, mais la liberté, je la trouve quand je me balade dans mon quartier la nuit avec de la musique, par exemple. Là je me sens incroyablement libre.
Didier ?
Cette histoire de clubbing, ou en tout cas de musique ou d'esthétique issue du club, il y a aussi, j'imagine, ce contraste que tu aimes entre le fait de pouvoir dépenser de l'énergie, donner au cœur et au corps le pouvoir de la sueur, et en même temps d'évoquer des choses un peu, tu disais dark tout à l'heure, mais un peu sombre. C'est ce contraste aussi, ce caillou, ce grain de sable que tu mets entre la lumière et la sombritude, mais aussi entre l'envie d'y croire et aussi le fait que la réalité, elle est parfois difficile. Oui ?
Oui, je ne sais que répondre.
Ah bah voilà.
Non mais Didier, il a des questions compliquées.
Hein. Ah bah non, mais parce qu'il dit si bien les choses qu'on sait, pas comment... je pense qu'il a tout dit, mais j'aime montrer... peut-être quelque chose qui dérange aussi aux spectateurs, parce que nous sommes présents, et parce qu'il y a un moment, il faut bien qu'ils soient confrontés à ça. Alors peut-être que quand ils me voient sur scène, je peux avoir des gestes un peu dérangeants, mais j'aime bien ça.
Ça, c'est intéressant.
Provoquer. Ouais.
Cette notion de vouloir déranger, de pas être dans un couloir balisé qui est celui du spectacle, quoi.
Mais comme cette chanson qui est sur ton album, qui s'appelle HPV, qui parle donc de MST qui en parle directement, sans phare, et aussi sur ce que c'est, comment c'est vivre avec ça, ne pas mettre laisser le spectateur seulement dans un endroit où il est confortable, à l'aise et qu'on le divertit, mais aussi le déranger un petit peu, le titiller. Toi, il y a des gens qui t'ont titillé, qui t'ont dérangé, que tu es allé voir sur scène ou que tu as vu sur YouTube et qui t'ont dit en fait il a raison, c'est là qu'il ou elle a raison, c'est là qu'il faut aller.
Mais je crois que quand je vois Isia sur scène, il y a un truc dérangeant que j'adore. Ah. Quand je vois Fishback sur scène, il y a un truc dérangeant que j'adore. Voilà, je pense
plutôt des femmes d'ailleurs
principalement. Ouais, mais ma culture musicale est pas composée de femmes en général.
Barbara, tu l'as pas vue sur scène, mais
je l'ai pas vue sur scène. Elle me dérange pas.
elle pouvait déranger Barbara Didier. Elle pouvait mettre mal à l'aise. Elle pouvait.
Oui. Bah, elle crée son petit théâtre noir avec ses ombres, ses contrastes, et effectivement, elle pouvait aussi déranger.
Même dans la génération actuelle, je pense à Zao de Sagazan, qui peut avoir un truc hyper dérangeant, mais qui moi me rend dingue, quoi.
Ouais. Mais on sent que c'est, pour rebondir sur ce que disait Patrice tout à l'heure, on sent qu'il y a aussi une génération, une énergie dans cette scène en ce moment où il y a des beaux artistes qui montent, qui sont appréciés, qu'on aime chanter et qui ne sont pas dans un endroit confortable, qui ne sont pas dans un endroit de divertissement. Ça doit être ultra stimulant. C'est quand le prochain album d'Eut? Parce qu'on a l'impression que tu as déjà plein de chansons de prêtes et que on a envie d'avoir des nouveaux sons.
Je n'ai aucune idée de quand sera mon prochain album, j'aimerais bien le savoir pour tout vous dire, mais je l'espère très vite.
On va demander à tes idéologues.
Voilà, mais je crois qu'ils savent pas non plus.
C'est bien ça le problème. J'ai voulu qu'on écoute Liberté Chérie, extrait de l'album. Je trouve que c'est une chanson, je disais hier sur notre conversation WhatsApp, un jour on la publiera peut-être, qui est très franco, parce qu'en même temps elle s'inscrit vraiment dans une tradition de chansons. Comment elle t'est venue cette chanson, Eut?
Il y a eu les attentats sur le boulevard Voltaire, au Bataclan, et puis j'ai écrit ça. C'était un peu ma manière à moi de ressentir cette chose-là. Et à l'époque, je crois que j'écoutais beaucoup Barbara. Donc il y a un truc très Barbara dans cette chanson. Très dit quand reviendras-tu, ou Göttingen, j'en sais rien, mais j'aimais ça. J'ai voulu aller les deux, j'ai dit allez. Fil.
Liberté Chérie, Eut sur le player de la Tsugi Radio. Dans quelques instants, on va recevoir Bertrand Belin en direct des Francofolies de La Rochelle au bord de l'océan. Merci beaucoup, Eut, d'être
merci.
Venu nous
merci
voir.
Merci.
Merci. Merci à toi.
Liberté Chérie.
Que je pose sur les murs de Paris, sur les feuilles blanches et les roses qui fleurissent mon pays, sur le parfum morose, quand je marche sous la pluie. C'est ton nom, ton ode, ma liberté chérie. Quand ton visage me revient et que défilent les souvenirs de ceux qui sont morts pour rien en soir de fête dans la ville, je te soulève de la main pour que jamais on ne t'oublie, car tu es des miens, ma liberté chérie. Quand la douceur du matin m'arrache de ceux en qui je crois, quand c'est la tasse dans la main plutôt que ton corps sous les doigts, quand je m'agace pour rien, que je ris aux émois, quand je t'enlace enfin, ma liberté chérie. Que l'on te considère encore comme le fil de notre avenir, que l'on se flagelle plus le corps et que l'on pousse juste un soupir, le temps de quelques accords pour te dire que je t'admire, que je t'ai gravé dans le corps, ma liberté chérie. Quand je m'élance sur la piste et que mon corps enchaîne les pas, quand la chaleur du samedi me fait sentir si fort que toi, les spots s'allument et je ne me maîtrise pas. Tout ça grâce à toi, ma liberté chérie. Ma liberté chérie, mieux qu'un très vieil ami, tu m'épaules à chaque fois que je m'écroule, que c'est fini. Et quand tout ça, je n'y crois pas, que l'on bâillonne, que l'on m'oublie, je ne cesserai pas de dire ton nom comme Paul l'écrit sur les merveilles des nuits. Ma liberté chérie.
Les Francofolies sur Tsugi Radio, Serge l'émission avec Patrice Bardot et Didier Varro. Didier Varro qui était déjà là hier, il y avait quand même un
je suis arrivé même avant-hier.
Philippe. Avant-hier, ah oui. C'est...
Il y avait un hommage à Jean-Louis Foulquier avec la projection en avant-première d'un documentaire pour France 3 sur l'itinéraire de l'enfant terrible de La Rochelle, créateur des Francofolies. Et puis hier, effectivement, c'était la grande première journée avec l'événement, enfin vraiment tout le monde, tous les journalistes qui étaient là, tout, on sentait qu'il y avait un truc dirigé vers le théâtre Verdière et vers la création d'Hervé Villard.
La fête à Hervé Villard. Hein.
Ouais, alors il y a des gens qui s'étonnaient de savoir qu'est-ce que c'était que cet objet chantant non identifié, parce que il faut quand même le dire, beaucoup ne connaissaient pas invités de Hervé. Ils sont très Tsugi et très Serge, oui. Mais ils ne sont pas forcément encore ultra populaires. Et puis en même temps, avec cette figure comme ça, emblématique, populaire, qui est Hervé Villard, dont on savait qu'il aimait beaucoup la chanson, qu'il connaît parfaitement son histoire, et puis cette chanson à la fois populaire mais aussi exigeante, cette chanson d'auteur. Et hier, en fait, alors je, pour être tout à fait franc, puisque j'anime dans un autre lieu les franco-littéraires, donc j'ai pu voir la fin de cette création, où les gens étaient vraiment tous éblouis, parce que en fait, ils ont à la fois découvert Hervé Villard et ils ont découvert des jeunes chanteurs.
Et alors, en fait, c'était quoi? Les jeunes chanteurs reprenaient Hervé Villard.
Alors, ce qui était très, très beau, c'est que ces jeunes chanteurs, Hussard, je vais essayer de les citer.
Je vais t'aider.
Hussard, oui, parce que là, la journée. Alors,
Abel Chéré,
merci. Martin Luminet. Je vais en oublier, mais c'est,
Cyril Mocaïèche,
Fouet,
Fiscara,
voilà, était autour d'Hervé Villard.
Et puis des horizons très différents, hein, chacun.
Exactement, avec un Hervé Villard. C'est la première fois que je vois ça dans une création, on va dire, d'un artiste patrimonial qui s'entoure de la jeune génération, parce que ça, c'est pas très nouveau. Mais ce qui était assez nouveau, c'est que là, l'arc des invités était un. Pas générationnel, mais en tout cas, on était dans une chanson pop, très écrite, avec beaucoup d'exigences et beaucoup d'engagement pour la plupart. Entre Mocaïèche et Luminet, c'est quand même des artistes qui sont dans l'engagement. Et puis, un artiste qui est là, qui les invite et qui les met en lumière. Tous sont venus chanter leur propre chanson.
Ah.
Ce qui fait que le public a découvert ces artistes. Et ensuite, il y avait l'offrande de cette jeune génération avec une chanson qu'ils ont écrite pour Hervé Villard, qu'ils chantaient ensemble. Et donc, ça faisait des choses très réussies, avec des ponts comme ça qui étaient assez réjouissants. Fiscara, il a chanté Méditerranéenne avec Hervé Villard. Donc, forcément, il se passe quelque chose. Et puis après, évidemment, il y avait la chanson de Fiscara. Hervé a chanté quelques chansons seul. Et à la fin, tous sont revenus pour faire nous, interpréter en lead par Fouet, et avec tous ces garçons qui ont fait les pa 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 pa. Et il s'est passé quelque chose. Les journalistes, bon, il y a des très beaux retours aujourd'hui.
Très beaux retours aujourd'hui, oui,
dans la presse, parce que c'est pas fake. En fait, souvent, ces albums d'artistes patrimoniales entourés d'une jeune génération, il y a un petit côté, pas fake, mais un petit côté surjoué. C'est toujours la vision d'un directeur artistique. Tandis que là, effectivement, on sent que Hervé connaissait ses artistes, les avait vus sur scène, et je peux en témoigner, a choisi de travailler avec eux, et finalement, ils se sont choisis mutuellement. La relation s'est construite aussi dans la durée, et ça a donné cette première création qui devrait donner un album et qui devrait donner une nouvelle création au Théâtre du Bouffe du Nord dans l'année 2024.
Allez, il jouera ce soir à la Coursive sur la grande scène avec Flavien Berger. Il a sorti son 7e album il y a quelques mois déjà. Il s'appelle Bertrand Belin. On va écouter Oiseau, extrait de cet album Tambour Vision, avant qu'il nous rejoigne sur le plateau de Tsugi Radio, ici à La Rochelle.
Je survolerai les villes, je survolerai les campagnes, les parkings, d'autres parkings, les monuments, les chantiers, je survolerai les chantiers. Si j'étais un oiseau, même tout petit, je survolerai le pays avec le vent, avec les nuages, avec les avions de chasse, les avions de chasse. les avions de ligne, je survolerai les vignes, je mangerai les raisins, je chierai les pépins le long des cours d'eau si j'étais un oiseau. Serpent, et ma vie est à terre, mon ventre est sur la pierre où je ferai ma tombe. Je ne suis qu'un serpent, et de muse en muse, de prairies en prairies, je perpétue mes hécatombes. D'ailleurs, je mange les œufs de colombe. Si j'étais un oiseau, cuit, 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 cuit. Cui, 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 cui.
Cui-cui, celui qui fait cui-cui dans la Tsugi Radio, c'est Bertrand Belin. Bonjour Bertrand Belin.
Bonjour.
Comment ça va ?
Merci, ça va très bien et vous ?
Mais ça va très bien. C'est cui-cui, c'est un moment fort un peu ouais. du live parce que le public souvent les reprend, c'est cui-cui-cui avec
oui,
toi.
Oui,
on fait des chansons pour ça, pour ces moments-là, pour que les gens s'approprient comme ça des bribes qu'on pose sur des musiques.
J'ai pas envisagé que les gens reprendraient ça. Jusqu'à présent, j'ai fait assez peu de chansons que le public se sente.
Ils reprennent les refrains
de reprendre. Ouais. Ça m'aurait pas déplu, mais c'est pas arrivé. Et puis, c'est vrai que j'ai pas à dire allez, on y va.
Allez, cuit,
tout le monde ensemble. Mais sur cuit, ça me fait plaisir parce que c'est pas des paroles humaines. Des paroles de bêtes.
Comment s'est passée la rencontre avec Laurent Bardenne, qui est aussi co-auteur de cette chanson ?
Eh bien, il est compositeur de la chanson, oui. Et comment elle s'est passée ? Il m'a contacté. Je l'avais croisé sur scène quelques fois, oui, dans les festivals. J'avais vu jouer aussi sur scène, parce que c'est un musicien qui a quand même beaucoup d'activités, qui a joué dans des groupes fameux.
Comme Pony Hawks notamment.
Pony Hawks notamment. Et on s'est rencontrés, on a joué avec Rodolphe Burger à Philharmonie dans un hommage au Velvet. Il était avec nous sur scène. Et là, je pense que c'est la première fois qu'on s'est vraiment croisés, échangé quelques mots. Puis on fréquente le même. On habite, je crois, le même quartier. On s'est croisés dans la rue. Il m'a fait part de cette envie. Et puis, il m'a envoyé cette musique. Ce qu'on vient d'entendre, c'est ma reversion, mais sur son album Tigre de Douce, il y a un autre instrumentarium avec une autre production. Et puis j'ai mis la chanson dans mon magnéto, et puis j'ai mis le casque, et puis paf, j'ai chanté Oiseau, et puis les mots ont trouvé leur place de façon assez simple et rapide. Et donc j'avais comme un sentiment d'exotisme par rapport à mes zones habituelles musicales, harmoniques, timbrales. Donc ça m'a inspiré autre chose. Et puis j'ai chanté la chanson, je lui ai envoyé, ça lui a convenu. Elle est parue sur son disque. Je lui ai demandé si je pouvais la mettre moi dans dans mon disque aussi, parce que j'ai aimé énormément la chanson. Mais esthétiquement, pour la faire cohabiter avec les miennes, j'avais besoin de la reproduire un peu différemment. Et puis voilà, on en fait une version encore autre.
ouais. Didier,
Cette idée tout d'un coup d'ouvrir le champ, ça fait sortir de sa zone de confort, de sa grammaire de composition, et la façon qu'on a de poser ses propres mots sur ses propres compositions.
Oui. C'est-à-dire, si je retire une expérience de ma collaboration avec Barden pour revenir à mes propres chansons, ouais. Oui, je pense que ça va me travailler sûrement plus, c'est-à-dire à mon insu. C'est pas quelque chose dont j'ai pris note vraiment, mais oui, ça va sûrement opérer des petits changements en moi. Oui, d'ailleurs, avec Liminanas, j'avais commencé avec l'EP aussi. Mmh. J'écris plusieurs textes sur leur musique, et c'est vrai que ça libère d'autres embranchements textuels. Je sais pas si ça se dit, mais on comprend quoi. Ça libère d'autres voix, peut-être que je peux pas explorer moi à cause de la température que je donne à ma musique, quoi.
Est-ce que ça veut dire qu'on peut pas se suffire à soi-même au bout d'un moment, après 15-20 années de parcours?
Se suffire, non, ce serait dommage qu'on se suffise à soi-même, mais quand on est musicien, compositeur et qu'on écrit des textes, le plaisir de les fabriquer soi est un plaisir qu'on ne peut pas non plus nier, on ne peut pas faire comme si. Je pense que c'est même tant pis, je pense qu'il y a des gens qui insistent à ronger leur os comme ça parce qu'ils ont un plaisir à ronger leur os, quand bien même il n'y a plus grand-chose à manger dessus, quoi. Mais je pense pas être en arrivé là. On est arrivé là encore. Parce que mon dernier disque, j'ai ouvert la porte aussi à Thibaut Frison qui joue avec moi, qui a composé deux musiques sur le disque. Oui, je pense que c'est simplement, il faut reconnaître qu'il faut rechercher du plaisir, et peu importe si on en est le démiurge ou le tyran. Voilà. Limite, vaut mieux peut-être pas.
L'image qu'on a de toi, Bertrand Belin, c'est d'un homme à la guitare. Pour t'avoir beaucoup vu sur scène, la guitare, elle est très présente. Là, tu as évoqué Thibaut Frisoni sur ce nouvel album et aussi sur la tournée. La guitare, elle cède un peu le pas, et notamment sur scène où du coup ton corps se lâche, tu danses plus, il y a du groove.
Ça avait un peu commencé déjà, on le sentait.
On le sentait venir. Ouais. Hein, voilà. Qu'est-ce que ça raconte de ton parcours, ça, ce chemin vers une guitare un tout petit peu moins omniprésente et ce groove qui s'instaure insidieusement sous tes rimes?
Bah, le groove, ça a toujours été dans mes préoccupations, mais il s'est coloré un peu de façon un peu nouvelle avec Thibaut, notamment dans l'apport qui s'entend dans le disque. Comme je disais, rechercher un territoire un peu neuf, ça veut dire aussi changer un peu de timbre et de couleur instrumentale pour faire neuf, comme dirait l'autre, pour soi-même d'abord. Si ça paraît neuf à la fin pour les autres et que ça les intéresse, que ce soit neuf, c'est une bonne chose. Mais moi, je dois, comme chacun, faire attention à minimum à pas ronronner, quoi. Donc il faut faire des nouvelles équations, quoi, sans cesse, quoi. Mais la guitare, j'en joue énormément toute la journée, mais chez moi, dans les loges. J'ai une guitare dans les loges tout le temps. J'ai jamais joué autant de guitare, mais c'est vrai que j'en ai jamais joué aussi peu sur scène.
Patrice.
Et les territoires neufs, c'est aussi le cinéma. On t'a vu dernièrement dans L'amour et les forêts. Qu'est-ce que ça t'apporte? C'est un espace de liberté, le cinéma, ou...
Non, je pense que c'est... Non, je trouve que c'est quand même beaucoup plus contraignant que la musique, hein, parce que ça met... parce que d'abord, il s'agit de répondre au désir de quelqu'un d'autre dans un domaine où j'ai pas de compétences, donc je suis un peu, à la merci de quelque chose, de quoi je saurais pas dire, mais ça met en éveil ma timidité, mes peurs, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'y vais, quoi, parce que c'est intéressant d'aller toujours un petit peu se dépasser, quoi. Donc j'ai pas fait grand chose dans ces films, j'apparais, je suis les conseils qui me sont donnés par les metteurs en scène et les metteuses en scène, et qu'est-ce que ça m'apporte? Un peu des vacances de moi aussi quand même.
C'est du plaisir.
On m'appelle David, on m'appelle Christophe, je mets des vêtements que j'oserais mettre dans la rue parce qu'on dirait soit mon grand-père. Mais non, oui, c'est intéressant. Puis comment les gens racontent leur histoire, d'être une chose, c'est intéressant. C'est Catherine il a répondu ça des fois, il aime bien être une chose à la merci de quelqu'un. Je comprends ça, j'aime bien être une chose. Je ne sais pas qui je suis, je m'appelle Christophe, j'ai des vêtements que j'aime pas, et je dis des paroles que je n'ai pas inventées. Bon, c'est une expérience intéressante. Non, mais la magie du cinéma, du montage, de l'écriture, du scénario, tout ça, il faut faire confiance et tout, et ça marche.
C'est une histoire de la déterritorialisation, comme dirait Deleuze, Patrice.
Mais sur le cinéma, c'est souvent des femmes qui te sollicitent, j'ai remarqué.
Ah bon? C'est-à-dire, ouais. J'ai quand même joué avec les frères Larieux, ils sont deux déjà. Ça fait tomber les statistiques. Non, j'ai pas joué beaucoup avec Olga Baïf, Valérie Donzelli.
Et
sinon, c'est les frères Larieux, j'ai pas joué dans d'autres films.
Ah bon, si on voit sur Allociné quand même.
Ouais, mais attention, des fois, on me confond avec quelqu'un d'autre.
Didier Varro.
Bertrand, on est là au Francofolie. J'imagine que c'est une date pas tout à fait comme les autres. Bon, les artistes aiment aller en festival en général, même si c'est un exercice un peu compliqué d'être dans une programmation où les sets sont quelquefois plus ramassés, etc. Mais ce festival, il a une vraie raison d'être pour toi.
Oui, bien sûr. J'y pensais hier soir en me couchant, pas ce matin en me rasant, comme disent les grands hommes. Mais j'y pensais, oui, parce que c'est vrai que c'est un festival qui a vraiment une identité, une couleur, une température, qui invite autrement. Quoi. Il invite autrement. Déjà, par sa longévité, par sa simplicité, par son éclectisme. Et puis c'est vrai que j'y suis venu déjà trois fois. Ouais. C'est peut-être la quatrième fois. Donc il y a ce rapport de fidélité. Je ne sais pas si c'est ça le vrai mot, mais c'est notre espace, quoi. C'est un peu notre endroit. Dans l'endroit où on mangeait, là, il y avait des photos de plein d'artistes. J'ai vu Eddie Mitchell. Il y a des artistes qui étaient déjà sur scène il y a 40 ans ou 50 ans. C'est un festival. Il n'y a pas beaucoup de festivals en France où on voit des photos des chanteurs comme ça, quoi.
Mmh. Ouais, c'est vrai.
Ça n'existe pas. Il y a une prime à l'immédiateté, à la nouveauté, à la pointe, à la super pointe. Mais ouvrir un peu quelque chose qui a à voir avec le patrimoine, c'est, je sais pas, il y a quelque chose de beau aussi là-dedans.
Avant toi, ce soir, il fait pas encore partie du patrimoine. Il y a Flavien Berger. C'est quelqu'un que tu apprécies, que tu connais, que tu écoutes.
Je ne connais pas personnellement. J'ai écouté sa musique plusieurs fois, comme ça, parce que je ne sais plus qui vous citiez tout à l'heure qui s'intéressait aux nouveautés. Moi, je m'intéresse aussi. Chaque semaine, je vais voir ce qui se fait de neuf. Que dire sinon qu'il y a une bonté manifeste dans sa musique et une certaine précision que j'admire, un goût quoi qui me convient. Quoi.
Ouais, ça interpelle parfois parce que ça c'est le fruit du travail d'un programmateur de se dire tiens on va comme tout à l'heure il y avait Euth et Nicolas Maury, on voit bien les passerelles qui sont déployées. Là, c'est vrai que d'avoir Flavien Berger et Bertrand Belin, on sent qu'il y a eu peut-être une petite intention. Et quand on est artiste, on doit être étonné parfois de découvrir ces filiations, ce regard que les programmateurs ont sur un plateau artistique, j'imagine.
Oui, c'est vrai. Je serais bien en peine de vous dire ce qu'il y a gouverner le choix de nous mettre ensemble là. Il faudrait demander au programmateur, mais enfin en tout cas ça me semble
pour autant
ça me semble pas fou quoi.
Parce que vous êtes tous les deux, vous avez un univers particulier et c'est vrai que c'est très attachant et je pense que c'est un peu ce qui fait le lien entre vous deux, ce particularisme de
un peu des deux artistes
on ne peut pas étiqueter vraiment qui appartiennent à un univers précis.
Oui, peut-être, c'est ça. Il faudrait voir l'ensemble des artistes présents aujourd'hui en concert pour voir Avec qui nous n'allions pas.
J'ai deux, trois idées.
Et ils nous ont mis ensemble parce que ça matchait, c'est là que ça matchait le plus, comme sur les Coombs, applications. Ça match, Flavien, ça match.
Allez. Tu disais dans Le Monde au moment de la sortie de l'album, Tom Eurovision, ce que j'aime dans mes chansons, c'est faire cohabiter l'éclat de rire avec l'effroi. Je pense que ça va pas mal à Flavien Berger, ça aussi, de faire cohabiter des choses très étonnantes. Alors l'éclat de rire, tu précisais, pas un éclat de rire clownesque. Ce goût de l'absurde, il te vient d'où, Bertrand Belin? Ça sert à quoi quand on écrit d'aller taquiner l'absurde?
Bah, l'absurde, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire l'insensé, hein, l'absurde. Hein, pour moi, l'absurde, c'est quelque chose de très construit, quoi. L'absurde, c'est là pour faire référence aux choses qui sont en général prises en charge par les philosophes, les gens qui ont vraiment beaucoup travaillé les questions importantes et profondes. Mais quand on ne les a pas travaillées en profondeur, quand on n'est pas prof de philo, quand on n'est pas théologien, quand on n'est pas un sociologue, ou quand on n'est pas une éminence du savoir, eh bien, il nous reste quand même la dimension de l'absurde pour faire des systèmes narratifs, textuels, qui mettent en scène des situations graves avec des choses très enfantines. La catastrophe, un verre qui tombe d'une table par terre, c'est une catastrophe. Elle aurait pu être évitée. C'est des choses simples, c'est de l'absurde. Mais c'est de l'absurde qui ouvre sur des choses quand même importantes qui peuvent faire réfléchir. Quoi. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'améliore ma compréhension du monde.
On va réfléchir à tout ça, on va réfléchir à l'absurde, mais il faut qu'on te laisse filer parce que c'est la vie des festivals. Tu dois traverser tout le site des Francofolies.
Non, je ne partirai pas.
D'autres journalistes pour continuer à partager tout ça. Merci beaucoup, Bertrand Belin, d'être venu.
Merci beaucoup à vous.
De Tsugi Radio.
Et à ce soir.
Et bonsoir à tout le monde.
Et à ce soir à la Coursive, on écoute Tambour justement pour se quitter avant d'accueillir Gérard Pont, le directeur des Francofolies.
Tambour. 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 Es-tu le bon tambour? Tambour. Tambour, es-tu le bon tambour? À qui sont ces squelettes? Tambour, alentour, tambour, que font ces vautours? Tambour, tu veux ma haine ou tu veux mon amour? Tambour.
Tsugi Radio en direct des Francofolies de La Rochelle avec toujours mes complices Didier Varro et Patrice Bardot. Nous accueillons le directeur des Franco, Gérard Pont. Salut Gérard.
Bonjour.
Bienvenue sur Tsugi Radio. Bonjour. Merci Bonjour. De nous accueillir déjà pour commencer. Les Franco sont complètes, en tout cas la grande scène depuis plusieurs mois déjà. Vous dites dans le dossier de presse, ça nous honore et ça nous oblige aussi. On imagine qu'il y a d'abord beaucoup de plaisir à avoir cette réussite, cette réussite, cet engouement du public.
Moi, je suis très touché, en fait. Ça m'émeut beaucoup.
C'est vrai?
Bah oui, mais c'est vrai. Quand on fait ce travail de voir ce public qui vient, c'est une formidable récompense. Enfin, je dis toujours que c'est un mariage. Ces gens-là, ils ne savaient pas qu'il y a un an, qui serait là. Les artistes ne savaient pas. Et nous, on décide pour eux, entre guillemets, qu'ils vont être là. On va les réunir à cette date-là. Et alors ça aurait pu se passer à 100 km d'ici, peut-être. Mais ce jour-là, c'est nous qui réunissons ce mariage. Et quand le mariage est réussi, waouh, ça fait vibrer le cœur. Enfin, moi, c'est ça ma réaction, quoi. C'est superbe.
Patrice Bardot.
Mais est-ce que c'est pas compliqué aujourd'hui, avec toutes les contraintes qu'il y a d'organisation, de sécurité, etc., etc., d'avoir encore du plaisir quand on est patron comme ça d'un festival énorme?
On est vraiment des Français, on râle tout le temps, mais franchement, c'est non. Puis, franchement, mon père était maçon, ça c'était dur. Il fallait se lever à 5h du mat, on travaillait dans la poussière. Nous, notre métier, c'est donner du plaisir aux gens, mais franchement, c'est jouissif. L'an dernier, quand on a découvert Zao de Sagazan et que je vois qu'elle est sur toutes les scènes de France aujourd'hui, comme disait dans le documentaire sur Jean-Louis Foulquier, comme disait Didier Varro, il y a quelques années, la chanson française est considérée comme ringarde. Aujourd'hui, elle est en tête d'affiche de tous les festivals, les Vieilles Charrues, les Eurocéennes, Main Square, Gare Europe, je vais pas fatiguer. Il y a que des Français, c'est formidable, et c'est complet avec des Français. Et ça, c'est grâce au travail, effectivement, on en parlait de Jean-Louis Foulquier, de Didier Varro, du chantier des Francofolies.
Le plaisir est chaque fois renouvelé. Ouais,
franchement, je peux vous dire, il y a toujours des contraintes dans la vie, mais pour moi, c'est pas des contraintes difficiles, quoi. Franchement, je vous jure, c'est au contraire, c'est ça qui est sympa aussi, de se dire comment on va faire, comment. Non, ça va.
Mais ça fait quelques temps que tu diriges les Franco, tu as aussi que tu es l'homme derrière Elixir, le festival qui a fait venir les Clash en France. Tu as toujours la même passion, Gérard Pont, intact.
C'est sûr que je vois pas souvent le patron de Vivendi ou de Fimalac à la Boule Noire. La Boule Noire, c'est une salle de Paris. Enfin, j'ai aucun mépris ni a priori. Je dis simplement oui, moi je vais dans les salles, j'adore ça. Une fois par mois, je vais sur une péniche à Paris voir il y a un petit club de folk. J'ai découvert Bobby comme ça. Non, vraiment.
Ça c'est ton pichet mignon à la folk. Hein.
Ouais. Et donc c'est jouissif de découvrir des artistes, de voir de l'émotion. Comme disait Foulquier, quand ça hérisse le poil, j'étais voir Hervé Villard hier, c'était superbe, on peut pas se lasser de ça. Et c'est curieux, depuis le début des temps, les gens ont toujours aller écouter d'autres gens faire du bruit, faire de la musique, chanter. Les gravures que l'on a, ils sont sur des tonneaux, des barriques en train de... Ouais, ça c'est la vie, quoi. Donc moi je comprends pas quand je rencontre des potes qui me disent ah non mais moi j'ai décroché. Mais comment est-ce possible?
On décroche jamais.
Didier Varro décroche pas non plus.
Non, c'est vrai, mais parce que Gérard, il a cette qualité, c'est qu'il rentre dans une salle, c'est peut-être les poils, mais s'il n'a pas la larme à l'œil ou s'il ne bande pas, en gros, c'est rédhibitoire. Et ça fait partie, en fait, de la relation organique qu'on a au spectacle. Et moi, je voudrais revenir sur quand même cette relation de confiance que les festivaliers ont avec les Francofolies. C'est-à-dire que finalement, on l'a vu, cette année, c'était complet assez vite, en tout cas sur les grosses scènes et même sur la coursive. Il y a un lien. En fait, les gens, ils viennent, ils ont rendez-vous aussi un peu avec eux-mêmes, comme je le dis souvent. Ils viennent pour voir les spectacles, mais ils viennent aussi pour profiter de cette ville et de cette qualité que vous allez leur offrir, l'accueil dont parlait Bertrand Belin, qui est un peu différent que dans les autres festivals. Comment on construit ce lien année après année? Parce qu'il peut se défaire aussi, ce lien.
Bah, d'abord, il faut être généreux de base. Enfin, je veux dire, c'est voilà, moi j'aime j'aime aller parler avec les festivaliers. J'aime voilà, donc et avoir des équipes bien choisies avec qui partagent les mêmes passions, qui sont sérieux, qui travaillent vraiment bien. Et je pense que voilà, il faut donner plus que les gens peuvent recevoir, quoi. Et moi j'aime bien quand les gens partent des Francofolies en disant waouh, j'ai pas pu tout voir, faut que je revienne. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, on est un festival aussi à taille humaine. Je pense que les gens, on vit, c'est un festival culturel, festif, culturel, parce que les gens, il n'y a pas de passe, on vient pas pour, il n'y a pas de passe 5 jours, on paye pour voir un artiste, et donc c'est une décision, c'est une intention, et donc ça, et les gens, hier, y a la création, Wax, je ne suis pas sûr que tout le monde connaissait Wax, mais c'était complet, voilà, il y a cette curiosité, et les gens payent pour ça, et je pense que, c'est ce qui, alors moi j'ai rien contre les autres festivals dont j'ai parlé tout à l'heure, hein. Mais il y a des festivals où les gens ne vont que pour le camping. Et encore une fois,
c'est très juste.
Je pourrais faire partie de ces gens-là aussi. Un coup, je regarde TF1, un coup, je regarde Arte. Donc, je veux dire, on est tous pareils. Mais nous, ce festival, il cultive sa différence. Et on doit encore plus la cultiver. Plus la cultiver par l'art, par la culture. On doit investir dans des choses, justement, qui ne sont pas de consommation immédiate. Et moi, je suis un consommateur. Je veux aussi voir Muse. Je veux aussi voir Depeche Mode. C'est au Stade de France. C'est pas incompatible. Mais nous, on doit défendre, on doit encore, quand je vois la création de WAC, quand je vois Hervé Villard, on doit encore plus aller vers là. Et quand je regardais le documentaire sur Jean-Louis Foulquier, je me disais, il faut qu'on soit aussi fou que Jean-Louis Foulquier. Voilà.
Comment tu imagines justement les Franco dans 5 ans, dans 10 ans, tu as
sans
une
moi.
Vision ah, non.
Si, sans moi. Mais justement, c'est aussi bien que je veux être capable, et c'est pas facile, de réussir comme Foulquier à passer la main. Je trouve que c'est ce qu'il a. Il a fait ça pour qu'elle lui survive. C'est Francofolie. Et c'est un talent de dingue. Alors peut-être qu'il était motivé par autre chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est Francofolie survivre à Jean-Louis Foulquier parce qu'il a eu l'intelligence de les passer à quelqu'un d'autre. Mmh. Voilà. Et j'espère que je serai. C'est voilà comment je les vois dans 5 ans, dirigée par d'autres gens. Et j'espère qu'elles se distingueront par la créativité, la générosité et par les artistes. Voilà.
Et surtout par cette capacité que tu as et que vous avez à décloisonner, puisqu'on y voit Hervé Villard, Wax, Flavien Berger, Bertrand Belin, mais aussi Sheila.
C'est très Serge.
Donc ça, c'est aussi important de ne pas mépriser la chanson
populaire. Aucun snobisme. Et ceux qui se moquent, par exemple, de Sheila, oublient que, comment dire, Nile Rodgers a travaillé avec Sheila avant Daft Punk, avant David Bowie, avant Madonna, avant Diana Ross. Et David Bowie a appelé Nile Rodgers quand il a entendu Spacer. Et c'est comme ça qu'ils ont produit Let's Dance. Donc voilà, et on a tous chanté Bang Bang. On a tout, donc, voilà, moi je trouve que c'est encore une fois, un jour on regarde TF1, le lendemain on regarde Arte, on est les mêmes.
Je crois qu'on doit te laisser filer. Oui, Gérard, absolument. Je te vois regarder compulsivement ton téléphone parce que tu as des prix à remettre.
Oui,
parce que c'est aussi un grand moment pour la filière, les Francofolies, où il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices des métiers de la musique qui sont présents. Et c'est un moment important pour nous. Merci beaucoup, Gérard Pont.
C'est moi qui vous remercie et je suis heureux que vous soyez avec nous cette année.
Et ben, nous aussi.
Bonne journée.
Très heureux. Un des moments importants de ces Franco aussi, c'est bien sûr le chantier des Francofolies qui va fêter ses 25 ans bientôt. Une sélection qu'on suit toujours avec beaucoup de curiosité. On aurait pu. Voilà, quasiment signé la sélection de cette année. On va quand même écouter avant de se quitter encore un petit peu de musique sur Tsugi Radio. Oui. Patrice, t'as voulu qu'on écoute Nina, que t'avais déjà présentée dans Serge l'émission.
Je l'avais déjà présentée, donc je la représente. Nina, elle est au chantier des Franco cette année. Elle vient de sortir un EP qui s'appelle Adieu. Et moi, j'ai été séduit par son mélange un peu rock, électronique, chanson, avec des textes qui sont un peu poético-intimes. C'est un peu à la manière de... Elle m'a rappelé un peu Lohan ou Fishback. Et elle a une voix qui fait un peu aussi Françoise Hardy, quelque part. Voilà, si on veut faire des comparaisons. Mais surtout, bon, elle est complètement en dehors des influences R&B autotunées qu'on entend un peu beaucoup. Je ne vais pas dire trop, mais qu'on entend beaucoup. Donc voilà, donc c'est ce qui m'a séduite. Et c'est vrai que je voulais la remettre aujourd'hui.
Donc tu as choisi un titre qui s'appelle M'as-tu vraiment aimé.
C'est, je crois qu'il clôture ce EP Adieu.
EP, ouais, tout à fait. M'as-tu vraiment aimé, c'est Nina sur la Tsugi Radio en direct des Franco de La Rochelle. Mmh.
Te souviens-tu de la fleur du pardon? Tu me l'as portée à Ranelagh. Te souviens-tu la rencontre de ce premier café chez Prune à 15h? Te souviens-tu de nos deux cœurs à 15h? Nous étions deux contre le monde extérieur. La pente ascendante s'est soumise aux erreurs. Te souviens-tu de mes pleurs devant toi quand je restais en silence? Te souviens-tu de la transe? On s'est trouvé pour se rendre. Te souviens-tu la cavale, nos errances de cet été dans les Landes? Cet appel à l'ambulance de l'éternel à l'absence. Souviens-tu notre écart 20 et 30, de la différence de taille insignifiante? Te souviens-tu de ces cendres, ce trait d'union disparu de nos méandres? Le temps assainit la plaie, la tienne est grande. Si ton amour était né, je me demande. Si tu m'as vraiment aimé, je me demande si tu m'as vraiment aimé. Te souviens-tu de mes pleurs devant toi quand je restais en silence? Te souviens-tu de la transe? On s'est trouvé pour se rendre. Te souviens-tu la cavale, nos errances de cet été dans les Landes? Cet appel à l'ambulance de l'éternelle à l'absence. Te souviens-tu de mes pleurs devant toi quand je restais en silence? Te souviens-tu de la transe? On s'est trouvé pour se rendre. Te souviens-tu la cavale, nos errances de cet été dans les Landes? Cet appel à l'ambulance de l'éternelle.
Nina, m'as-tu vraiment aimé sur la Tsugi Radio en direct des Francofolies de La Rochelle pour presque refermer cette émission en direct des Franco, Patrice Bardot?
Oui, non, ça a été un ravissement d'être au Franco et d'écouter Nina, hein, sur lequel je mise beaucoup.
Moi, je vais aller voir Lisa Ducasse, la fin du spectacle de Lisa Ducasse qu'on a beaucoup défendu aussi dans cette émission.
Avec cette merveilleuse reprise de Jacques Brel, la chanson des vieux amants.
Qu'on aurait aimé d'ailleurs recevoir aujourd'hui, voilà, mais c'était trop près de son concert. On va quand même se quitter avec un petit Sheila, parce que c'est un petit événement. J'y pensais ce matin, il n'y a pas d'âge hein, pour faire ses premières franco, puisque donc Sheila fera samedi ses premières franco. c'est un peu notre copine, un peu la marraine de Serge l'émission. Didier, toi qui connais bien ce festival, mieux que nous deux, qu'est-ce que ça symbolise que Sheila soit ici samedi, juste avant Renaud d'ailleurs au Théâtre de la Coursive?
Oui, bah c'est ça, c'est ce que tu viens de dire, juste avant Renaud à la Coursive. Je crois que là, ça, à la fois ça met en lumière ce qu'est ce festival, et puis aussi... Ça, comme je le disais un peu à Hervé Villard hier soir, c'est qu'il ne faut jamais préjuger de l'avenir. Ce qu'on pense sûr et certain à un moment précis, finalement, avec la chanson en tout cas, et aujourd'hui, cette hybridation qui est partout, et ces jeunes générations qui reprennent des chansons de Dalida. Voilà,
ces barrières qui tombent.
Ouais, d'Aznavour, de Dalida ou de Sheila.
Ou qui revendiquent Brel comme voilà. Zao de Sagazan voilà. Et Pierre
et Demar. Bientôt de Hervé Villard.
Et voilà, et bien ça, c'est le sens de la vie. Puisque c'est le sens de Serge, donc voilà.
On se retrouve
c'est
tout
le
à
sens
fait.
Et l'essence de Serge. Donc voilà. Et puis moi, je suis assez curieux de voir ce concert de Sheila. J'en verrai qu'une partie, malheureusement.
Je crois que tu l'as vu à Pleyel. Hein.
Moi, je l'ai vu à Pleyel. Et elle devait faire la grande scène en 1985, le 14 juillet 1985. Fouquier l'avait programmé pour le 14
donc
juillet.
Tout début des francophonies. Hein.
Ça. Ou 86, pardon. Non, 85. Voilà, février 85, elle fait le Zénith. Et Jean-Louis avait été la voir. Elle avait dit « Ah, ce serait marrant de la faire. » Que pour le 14 juillet, pour la fête nationale, on rend hommage à Sheila National. Et en fait, ça n'était pas fait parce qu'on le sait, il y a eu quelques petits problèmes de production après le Zénith. Et du coup, le spectacle n'a pas pu se faire. Donc, pour elle, je sais que c'est un peu une revanche, quoi. Elle met dans cette date beaucoup d'investissements et beaucoup de symboles.
On sera là tous les deux pour aller la voir ici à la Coursive, et puis après il y a le Grand Rex qui apparemment il y a plus beaucoup de place.
C'est complet.
C'est quand
Il va y avoir de nouvelles dates bientôt à Paris.
Attends, je te dis ça tout de suite.
Le temps que je remercie un petit peu tous les gens qui nous ont accueillis ici, Marie à la régie, mais aussi bien sûr Alice Pont, Elodie Mathieu, Guillaume Maury, toutes les équipes des Francofolies de La Rochelle. La prochaine escale sur la route des festivals, ce sera mercredi prochain à 17h pour un numéro de Jazz The Two of Us en direct de Jazz à Nice, avec notamment la retransmission en intégralité du concert de la nouvelle sensation venue de Compton en Californie, qui ne fait pas d'Europe puisqu'il s'agit du trio Gabriels. Et alors Sheila, au Grand Rex, tu as trouvé...
12 novembre 2023.
C'est complet, mais il va y avoir de nouvelles dates à Paris.
En 2024.
Elle n'arrêtera jamais.
Merci Patrice Patrice Bardot et Didier Varro, mes
on
complices
embrasse,
de Serge d'émission. Merci Hugo Cardona,
merci
à la réalisation.
Merci Hugo, bravo,
Sheila, c'est notre copine. Elle a retrouvé, donc comme l'a dit Gérard tout à l'heure, Nile Rodgers sur son dernier album venu d'ailleurs, notamment avec ce titre Law of Attraction. Sheila sur la Tsugi Radio. Allez, bisous.
Kind of shocking. Feel the music in my feet when I.
Serge, l'émission sur la Tsugi Radio.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.